France Inter.
Aujourd'hui, retour aux îles Kerguelen, raconté par
Emmanuel Lepage, auteur de bande dessinée.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il faut imaginer une mer presque sans nom au sud du sud, une mer où les tempêtes semblent n'avoir aucune limite. Le 12 février 1772, après des semaines de navigation dans l'hémisphère austral, un cri retentit à bord du navire La Fortune pour signaler une terre par l'avant bâbord. C'est un moment de grâce pour un équipage épuisé, perdu dans les eaux que l'Europe ne connaît pas encore. Tous se ruent au bastingage. Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec, capitaine breton, apparaît à son tour, ajuste sa perruque et saisit sa longue vue. Depuis 20 ans, il rêve de découvrir un nouveau continent austral et dans ses rochers noirs balayés par le vent. Il croit voir le début de cette terre immense qu'il appelle déjà France australe. Le mauvais temps empêche tout débarquement, mais Kerguelen n'en doute pas. Ce ne peut être qu'un avant-poste d'un continent gigantesque. Il envoie son second navire, le Gros Ventre, tenter une approche plus au sud, puis repart seul vers la France pour annoncer sa découverte. À Versailles, Louis XV le reçoit comme un nouvel explorateur providentiel. Mais lorsqu'il revient sur place, l'illusion se dissipe, les îles sont austères, volcaniques, perpétuellement battues par les vents, aucune trace d'un continent, seulement 300 îles déchiquetées, seulement des manchots, des éléphants de mer et des albatros. Une courte incursion à terre le 6 janvier 1774 suffit donc à comprendre que ce territoire n'a rien du paradis décrit au roi. L'expédition sombre même dans le scandale et Kerguelen sera finalement traduit en conseil de guerre pour mensonge, indiscipline et abus de confiance. Et pourtant, son nom survivra et sera donné aux îles. Aujourd'hui, les Kerguelen demeurent un bout du monde, un désert rocheux où le froid et la nature règnent sans partage. L'archipel est totalement inhabité, seuls des scientifiques et des équipes techniques y séjournent pour étudier la biodiversité, les océans, le climat et observer en temps réel la transformation rapide du monde austral. Et puis parfois, l'île reçoit la visite d'un dessinateur venu capter ce que les instruments ne mesurent pas. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Emmanuel Lepage.
Bonjour Mathieu Vidard.
C'est vous le visiteur des îles Kerguelen, c'est même votre deuxième visite sur ces îles qui fait l'objet donc d'une nouvelle bande dessinée chez Futuropolis intitulée « Danser avec le vent », ouvrage tiré donc de votre voyage à bord du navire scientifique le Marion Dufresne et de votre expérience donc dans ces terres australes entre novembre 2022 et janvier 2023. Vous êtes devenu l'un des rares artistes à avoir séjourné donc à deux reprises au Kerguelen. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être revenu dans ces terres australes 13 ans donc après votre premier séjour ?
Eh bien, il y avait à la fois un sentiment de familiarité oui. En retournant là-bas. Je savais ce que j'allais y voir. En tout cas, dans les bases, les scientifiques, le personnel technique. Mais ce deuxième voyage avait une saveur un peu particulière parce que cette fois, j'allais pouvoir rester sur place. Lors du premier voyage, je n'avais passé que 2 ou 3 jours sur les bases, dans ce qu'on appelle une rotation. Le deuxième voyage, j'allais pouvoir arpenter justement ces terres sans chemin, avec une équipe d'Arte d'ailleurs, puisqu'on y allait pour faire un film, et surtout vivre le quotidien de ces reclus volontaires.
Ouais, avec également un titre de peintre officiel de la marine entre les deux, c'est ça, que vous avez eu en 2021?
Oui, alors ça n'a pas grand chose à voir.
Mais
parce
enfin,
que là,
quand même, vous êtes arrivé avec ce titre à bord.
Oui, je suis peintre de la marine, en effet.
Ouais. Et ça vous donne droit à quoi d'ailleurs, en l'occurrence?
J'ai la possibilité en fait d'embarquer sur tous les navires de la marine nationale.
Ouais.
Chose que je n'ai pas encore fait. Il serait temps peut-être. Mais là voilà, la bande dessinée me demande beaucoup de temps et pour l'instant j'ai pas encore eu la possibilité d'embarquer. Mais ça viendra un jour. En fait, ouais. C'est une garantie de voyage à vie en fait.
Absolument. Donc là, vous étiez à bord de ce navire scientifique. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'ailleurs la première fois que vous êtes arrivé quand même dans cette région? Qu'est-ce que vous retenez comme sentiment? Comme sensation?
Le premier sentiment que j'ai eu lors de mon premier voyage en 2010, a été d'être dans le monde du bout du monde. Vous savez, autrefois, on imaginait qu'au bout du monde, il y avait les nuées, et après, il y avait les animaux fantastiques, et puis après, c'était la fin du monde. Quand vous allez dans les terres australes, vous avez un peu ce sentiment-là, puisqu'au moment où les eaux chaudes de l'océan Indien rencontrent les eaux froides de l'océan Antarctique, il y a un phénomène de brume très, très, très curieux. Tous les bruits sont assourdis, et vous franchissez cette porte brumeuse, et de l'autre côté, effectivement, il y a les animaux fantastiques, il y a les manchots, les éléphants de mer, et surtout les albatros. Donc, on a quand même ce sentiment d'être ailleurs.
Ouais, ça a donc donné naissance, ce premier voyage, à votre bande dessinée Voyage aux îles de la désolation, qui est sortie en 2011. La désolation, ça résume très très bien aussi cet univers géographique.
C'est un peu exagéré, désolation, parce que j'ai jamais eu vraiment ce sentiment de désolation. En fait, parce que c'est tellement beau. Effectivement, c'est austère. Mais les ciels sont absolument inouïs. Vous savez, vous avez l'impression de basalte comme ça qui sort de l'eau en fumant. En fait, vous avez l'impression d'être à l'aube du monde. Donc désolation, non. Puis surtout, vous avez tellement d'animaux. C'est assez incroyable en fait de côtoyer d'aussi près le sauvage.
Ouais. Mais donc c'est un titre que vous remettez en cause vous-même.
Oui, parce que ça désolation. C'est le nom qu'on leur a donné, enfin que sans doute Kerguelen et les marins qui sont arrivés à ce moment-là lui donnaient, parce que pour eux ça l'était. Ils imaginaient voir un, comme vous l'avez résumé tout à l'heure, ils imaginaient voir un univers, enfin une sorte de paradis, un nouvel Éden austral. Mm-hmm. Et puis c'est avéré que c'était absolument inexploitable. Donc pour eux ça l'était. Pour nous qui le découvrons, on a l'impression d'être à l'aube du monde.
Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché donc le second voyage en l'occurrence? C'était le documentaire pour Arte ou une invitation de scientifique? Comment ça s'est passé?
À l'origine, c'est une proposition de Christophe Guinet, qui est le responsable des programmes éléphants de mer à Kerguelen, qui m'avait proposé de partir faire une campagne d'été, c'est-à-dire rester 5 mois sur Kerguelen avec ses équipes. Alors, partir 5 mois, c'était un peu compliqué pour des raisons professionnelles et familiales.
Vous avez beau aimer les éléphants de mer, c'était un petit peu long quand même.
Ah, mais c'était très excitant parce que j'allais vivre le quotidien de tous ces scientifiques que j'avais imaginé lors du premier voyage, mais n'étant resté que quelques jours, je n'avais pas vécu ce quotidien. Et quand je les voyais revenir de ces quelques mois presque un an et demi parfois, je les voyais tellement changer, enfin je voyais dans leurs yeux, dans leur silence, qu'il s'était passé quelque chose de très très fort, et je n'avais fait que l'évoquer dans ce premier livre-là, on me proposait vraiment de le vivre. Et donc ça n'a pas pu se faire tout de suite, et puis le temps a passé jusqu'au jour où un réalisateur, François Picard, m'a proposé de venir tourner un film, de m'accompagner sur le terrain, et là c'était que 2 mois, donc c'était beaucoup plus envisageable.
Et donc ça a aussi donné naissance à cette bande dessinée, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs l'objectif donc, au départ. Vous n'étiez pas parti pour dessiner sur place hein?
Alors, je ne dessine pas sur place, enfin je fais des croquis sur place si vous voulez, mais je ne fais pas la bande dessinée sur place. Non, je ne pensais pas vraiment faire une bande dessinée documentaire, parce que j'avais déjà fait une bande dessinée là-bas, donc qu'est-ce que je pouvais raconter de différent? Donc j'avais beaucoup de doutes, et autant dans le premier voyage j'étais un dessinateur sur le bateau, dans le deuxième voyage, bon bah là je venais avec une caméra de télévision, donc pour la discrétion c'était pas ça, et puis... beaucoup de gens connaissaient aussi mon livre, donc je craignais que cette proximité, cette intimité n'allait pas pouvoir être possible.
Ce titre Danser donc avec le vent, qu'est-ce qu'il veut dire exactement?
Alors, il y a deux choses. Le vent est omniprésent là-bas. En fait, tout le monde en parle. C'est ça la caractéristique de ces terres australes. C'est le vent omniprésent, qui se lève très, très rapidement, qui peut tomber aussi très rapidement, et qui fait que c'est pas possible d'avoir une vie pérenne d'ailleurs dans ces terres australes, parce que il souffle très régulièrement, il n'y a pas d'arbres, c'est vraiment une végétation rase. Toutes les tentatives de colonisation de ces terres australes ont été des échecs, justement à cause du vent et de ces conditions climatiques extrêmes. Donc le vent est omniprésent. ans. Et puis, dans ce voyage, nous avons beaucoup dansé.
Ouais.
Et toutes ces craintes que j'avais au début de me dire quelle histoire je peux raconter, est-ce que je vais vraiment pouvoir rencontrer les gens, est-ce que la caméra, justement, ne va pas faire une sorte de filtre, tout ça, ça a été balayé. En fait, j'avais tort d'un bout à l'autre.
Ouais.
Et ça a été, au contraire, la danse a été très présente. On danse beaucoup à Kerguelen, mais c'est aussi une métaphore d'une façon de s'alléger, de sortir de cette pesanteur du monde.
Et comment vous expliquez qu'on danse beaucoup à Kerguelen? Parce que ce sont des scientifiques principalement qui sont sur place. Comment se fait-il que la danse soit aussi un ingrédient finalement des séjours au Kerguelen?
Effectivement, les conditions sont rudes, mais la fête, la danse, justement, c'est un moyen de créer du lien. Et vous savez, quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas la possibilité de partir. Vous pouvez, le bateau, il reste très peu de temps, il passe quatre fois par an. Donc, il faut trouver des façons de vivre ensemble. Alors, ils vivent des choses qui sont difficiles. Hein, c'est pas toujours très simple.
On y reviendra.
De vivre avec des gens qu'on n'a pas choisi.
Il y a beaucoup de promiscuité. Ouais.
Ouais, et donc, la fête, la danse. Fait partie intégrante de ce vivre ensemble. En fait, ça crée un autre lien qui est nécessaire, tout simplement, pour la survie dans ouais. ces terres australes.
Comment on dessine le vent, Emmanuel Lepage? Ça doit être une difficulté extrême, non? De représenter le vent dans une planche.
Décider de quelque chose, effectivement, que l'on ne voit pas, qui est là et qui n'existe que parce qu'il passe.
C'est ça.
Vous pouvez le dessiner par les positions des corps, évidemment, un drapeau qui va flotter au vent. Mais je vous avoue que le vent, c'est parmi peut-être les choses autour desquelles je tourne,
ouais.
sans vraiment savoir comment le représenter.
On va écouter la voix d'un de vos collègues dessinateurs, Hugo Pratt, au sujet des voyages. Quel dessinateur et quel voyageur aussi? C'était en 1999 sur France 3.
Aujourd'hui, on ne fait plus des voyages. Hein? On fait des transports. On va avec un avion, on va d'un côté, on va de l'autre. Mais vite, on n'a pas le temps d'arriver à réfléchir. Alors, je crois que si vous avez en tête quelque endroit qui a changé, c'est difficile de les retrouver. Vous devez même aller avec un livre historique, un livre que vous aimez, et aller à la recherche de l'endroit que l'écrivain a décrit, et vous le retrouvez. Vous le retrouvez beaucoup plus que vous ne pensez pas.
Hugo Pratt, est-ce que vous avez lu beaucoup de choses, Emmanuel Lepage, avant d'aller au Kerguelen?
Je n'ai rien lu.
Donc vous n'aviez aucune idée particulière de ce que vous alliez vivre?
Je ne lis pas avant de partir. J'ai envie d'être surpris. Je peux lire beaucoup après, mais pas avant, parce que justement, j'ai peur que ça modifie mon regard et j'ai besoin de me sentir sans a priori avant de partir quelque part. Je peux lire des choses éventuellement pratiques pour savoir quelle température il fait et comment il faut me couvrir. Mais j'ai peur d'être influencé par les lectures que je peux avoir. Par contre, après, je lis beaucoup, et pendant aussi. Hein,
ouais.
Quand j'étais là-bas, j'ai lu quelques livres, oui.
Comment est-ce qu'on est accueilli sur place quand on arrive dans un tel endroit pour vivre une telle expérience? Est-ce que c'est un moment particulier à vivre? Est-ce qu'on projette des choses particulières sur l'accueil?
Alors, l'accueil à Kerguelen, enfin sur les terres australes, ce qu'on appelle une OP, une opération portuaire, c'est un tourbillon. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ceux qui arrivent, ceux qui partent. C'est à la fois le plaisir de rencontrer des gens différents, d'avoir de nouveaux visages, et puis en même temps le déchirement de quitter ceux avec qui on a passé parfois un an et demi.
Donc tout ça se croise en fait.
Oui, hein. Tout ça se croise, et de façon aussi très rapide, parce que il y a pas de port à Kerguelen, donc tout se fait en hélicoptère,
ouais.
Et en 30 secondes on passe du bateau à la terre et de la terre au bateau. Donc, on change d'univers extrêmement brutalement. C'est un tourbillon. On est ailleurs. Et c'est des choses qui sont vécues de façon extrêmement violente par tous les gens qui vont là-bas. C'est vraiment étrange, parce qu'on est Nous-mêmes, quand on arrive là-bas, évidemment, soudain, on va rencontrer 30, 40 personnes. On est happé, émerveillé. Puis vous avez le bruit de l'hélicoptère autour, vous avez le froid. Puis surtout, vous voyez les animaux qui sont là, tout autour de vous. Dans la base de Port-au-Français, il y a des manchots, des éléphants de mer. Et vous êtes comme ça au milieu du vivant sauvage. Mmh. C'est curieux, c'est un émerveillement. On est vraiment un tourbillon.
On va écouter Valérie, la chef de district de Port-au-Français, qui vous explique justement dans le documentaire qui a été tourné pour Arte la façon dont les liens se construisent assez rapidement sur les Kerguelen.
Malheureusement, on le sait, hein, quand on arrive, on va partir un jour. Néanmoins, bah, les amitiés se sont créées et tous sont tristes de partir. Et ceux qui restent sont tristes de les voir partir. Moi, je considère ça comme une grande famille. Alors avec des hauts et des bas, comme dans une famille en fait, où on peut se disputer, s'approcher, mais ça reste fort. Hein. Ce n'est pas des liens du sang, mais c'est des liens d'amitié qui restent très très forts. Les conditions sont très particulières, le terrain est très particulier. On part rapidement en cavade, donc forcément les liens se créent assez rapidement. Parce qu'on en bave, moi j'en ai bavé en allant en cavade, donc je pense que eux tous c'est pareil. Et ça crée une famille.
Voilà Valérie, la chef de district, dans le tourbillon de l'hélicoptère hein, qu'on entend, oui, derrière. Ça veut dire quoi chef de district d'ailleurs sur une terre comme Kerguelen?
Le chef du district est le représentant du préfet des TAF sur les bases. Donc les TAF, c'est une administration, Terres australes et antarctiques françaises, mmh. Donc qui est située à l'île de la Réunion, à Saint-Pierre. Et donc le chef du district est le représentant de la préfète, là, pour le coup.
Ouais. Donc c'est le maire, finalement, du lieu, quasiment?
Oui, c'est un petit peu tout. C'est l'autorité, tout simplement, que vous avez là-bas. C'est des structures assez hiérarchisées, hein, les terres australes. C'est des choses d'ailleurs qui sont parfois remises en question par les gens sur place, parce qu'on se demande pourquoi une telle hiérarchie sur des aussi petites communautés.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Avec 500 km², c'est le plus vaste glacier de France, plus grand que tous les glaciers des Alpes réunis, mais c'est aussi celui qui fond le plus vite à l'échelle de la planète.
L'endroit où nous sommes ici nous intéresse parce que ça va nous permettre de combiner à la fois l'analyse des sédiments lacustres qui vont être prélevés avec les carottages, et puis également l'analyse de ce qu'a été la position des glaciers en un peu plus de 50 ans. Le glacier a perdu 25% de sa superficie. La température, effectivement, s'élève depuis quelques décennies. Et ça a des effets, bien sûr, en termes d'accumulation de la neige. Il y a moins de neige qui s'accumule, c'est plus de la pluie qui tombe que de la neige.
Reportage aux îles Kerguelen, c'était en 2020 sur TF1, avec le plus grand glacier de France, qui est aussi celui qui fond actuellement le plus vite au monde. Emmanuel Lepage, vous qui êtes notre invité, avec cette bande dessinée dont vous êtes l'auteur, Danser avec le vent chez Futuropolis, donc récit de votre second voyage aux îles Kerguelen. Vous avez été le témoin des changements, ou c'est compliqué quand on est sur place seulement 2 mois de pouvoir en dire quelque chose?
C'est très compliqué. Enfin, c'est comme le réchauffement climatique. Le fait, on le voit pas. On sait que c'est là, mais on le voit pas. Et puis, à mon échelle, c'est très difficile. Je serais allé à nouveau sur le glacier. Peut-être que je m'en suis rendu compte parce que le glacier, j'y étais allé lors de mon premier voyage. Ouais. Mais on a besoin d'avoir des scientifiques pour nous expliquer évidemment les changements. Moi, quand je suis qu'un passant en fait hein, sur ouais. ces îles et en plus sur une période courte. Par contre, vous avez à l'île d'Amsterdam. Un endroit où on mesure le CO2 dans l'atmosphère et les effets de gaz à effet de serre. Une station donc, qui s'appelle Pointe Bénédicte qui permet de vérifier et de constater qu'à l'échelle d'un hivernage, donc à un an, on voit en fait l'augmentation du CO2. Donc c'est-à-dire à l'échelle d'une très très courte période. Et ça, en plus, ça va en s'accélérant. Mmh. Donc eux, ils le voient. Enfin, sur leurs instruments. Oui.
L'évocation des pluies, par exemple, qui sont plus nombreuses aussi et qui modifient considérablement la vie des animaux aussi sur place, ça, c'est quelque chose qui fait partie de ces changements sur place.
On a toujours l'impression que ces terres, c'est le bout du monde. Mais en fait, c'est surtout des avant-postes de ce qui va se passer chez nous bientôt. Et vous avez des problèmes particulièrement au niveau des manchots, par exemple, où le front polaire, là où ils vont se nourrir, et à creuser en particulier, qui s'éloigne. Donc les manchots ont besoin d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir nourrir leurs poussins. Et quand ils reviennent, ils sont morts. Donc vous avez les populations de manchots à creuser qui sont en forte diminution. Pas encore à Kerguelen. Ouais. Et au niveau aussi de la sécheresse, récemment, en début d'année, vous avez un incendie gigantesque à l'île d'Amsterdam qui a ravagé une bonne partie de l'île parce qu'il n'avait pas plu et le terrain était beaucoup trop sec.
Et ça, c'est des phénomènes nouveaux. Un incendie d'une telle ampleur, par exemple, sur une île australe comme celle d'Amsterdam, qui a brûlé quasiment la moitié du territoire.
Ouais, même plus, je crois.
C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant.
Alors ça s'était fait avant. Il y en avait eu avant, mais je crois que c'était il y a quand même un petit moment, certainement pas avec une telle rapidité, parce que là tout était très très sec. Ouais. Mais c'est assez dramatique ce qui se passe là-bas, parce que les scientifiques, vous en recevez beaucoup, hurlent depuis des années à ce qui se passe, et on les écoute pas. S'il y a un changement, vous voyez, que j'ai pu constater entre mon premier et mon deuxième voyage, c'est que les scientifiques que je rencontrais en 2010 nous disaient, nous montraient, criaient, essayaient d'interpeller le monde, les politiques, et rien ne se passait. Et je pense que dans ce deuxième voyage, il y a eu une forme de... peut-être pas de découragement, mais de se dire, bon, on nous entend pas, alors on va faire. Et je vois beaucoup de ces jeunes gens extrêmement engagés aussi dans leur quotidien, lorsqu'ils rentrent, pour essayer d'avoir moins d'empreintes carbone, tout simplement, d'arrêter de manger de la viande, d'aller dans les écoles. Enfin, je rencontre des gens qui sont plus militants.
Ouais, vous avez cette discussion avec une des chercheuses d'ailleurs sur place, qui pense déjà à son retour, je crois qu'elle habite dans les Alpes, et qui imagine peut-être quasiment abandonner son travail de recherche pour se consacrer plutôt à la terre et l'agriculture.
Oui, c'est ça.
Vous en avez rencontré plusieurs qui sont presque dans cette démarche-là, d'arrêter la science.
Oui, il y en a beaucoup qui y a un découragement, en fait. Ce sont vraiment des têtes d'ampoule, hein, vous savez, ce sont des gens pour aller là-bas, c'est des gens qui sont très très au fait de la beauté du monde et de sa fragilité. Mais je crois qu'il y a chez eux un vrai découragement quand ils passent la moitié de leur temps à essayer de trouver des sous pour leur recherche. Et c'est pas possible, en fait. Ils sont pas là pour ça. Et on leur demande souvent, à quoi ça sert, en fait, qu'est-ce qu'on fait, en fait, toujours dans une notion productiviste de la science. Alors qu'on pourrait peut-être juste s'intéresser à la beauté du monde et essayer de comprendre dans le monde dans lequel on est.
Emmanuel Lepage, quand on est comme ça entouré par des milliers d'animaux, hein, donc des manchots ou des éléphants de mer, qui sont quand même aussi des animaux extrêmement impressionnants, quelle place on a en tant qu'humain au milieu de cette faune ?
On leur fait pas peur. on n'est pas perçu comme des prédateurs. Donc... Il y a une interaction qui est assez étrange, parce que à la fois nous on est curieux évidemment de voir ces animaux qu'on ne voit que là-bas, mais eux-mêmes sont assez curieux de nous voir. Et il m'arrivait très fréquemment de dessiner au milieu d'eux.
Oui. Et ils se laissent bien dessiner, ça va.
Oui, alors les manchots, c'est assez amusant, parce que même s'ils bougent, vu qu'ils se ressemblent tous, s'il y en a un qui n'a plus tout à fait la même position, je vais voir.
Le modèle reste bon.
Le modèle reste bon. Mais vous voyez, c'était assez fréquent qu'ils s'approchent vraiment très près de moi, et j'avais justement, parce qu'il y a beaucoup de vent à Kerguelen, j'ai des pinces en métal pour tenir les feuilles, et sans doute parce que ça brille un peu, ça devait les intriguer, et plus d'une fois les manchots venaient tapoter sur cette pince en métal. Ouais. Donc je les avais là, en fait, à 10 cm de mon crayon.
Et donc cette place, il faut maintenir quand même une sorte de distance quand même avec ces animaux, pas être trop intrusif. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les scientifiques, là-dessus? Vous avez des consignes ou pas?
On va éviter de leur foncer dessus, si vous voulez. Ah oui. Mais vous voyez la plage de Ratmanov, qui est la plus grande colonie de manchots royaux au monde, il y a plus de 300 000 individus, sans compter les éléphants de mer. Quand vous frayez un passage parmi eux, ils s'écartent, en fait. Et à peine, parfois, il faut parfois le dernier moment pour qu'ils s'écartent, parce qu'ils sont plus intrigués que peureux. Et c'est... C'est tellement rare, en fait, de fréquenter le sauvage. Vous voyez, chez nous, on est émerveillé quand on voit une biche ou un sanglier. On voit des... Quand on est ornithologue, les oiseaux sont loin, il faut exercer la vue. Tandis que là, ils sont tout près. Il m'est arrivé une fois de tenir un manchot royal dans mes mains parce que c'était en train de faire un prélèvement de sang. Et quand vous avez un animal sauvage entre vos mains, enfin, c'est une émotion absolument incroyable.
Et il faut imaginer que ce sont des centaines de milliers d'animaux. Hein.
C'est-à-dire c'est à perte de vue.
C'est à perte de vue, c'est extrêmement impressionnant.
Puis vous le voyez progressivement en plus, parce que quand vous arrivez petit à petit vers cette plage, vous voyez quelques individus et encore plus, et puis soudain vous entendez le bruit. C'est parce que c'est extrêmement bruyant. Et puis soudain, on est sur une sorte de petit promontoire et ça se dégage. Et c'est 300 000 individus, c'est inouï.
On va écouter deux scientifiques qui sont en séance d'observation de manchots à Pointe-Suzanne. Vous étiez auprès d'elle, Emmanuel Lepage, extrait du documentaire « Les îles Kerguelen aux confins du monde » de Cécile Clocheret, qui avait été diffusée l'année dernière sur Arte.
Le but, c'est vraiment de compter tous les poussins. Bah, tu verras, du coup, Kerguelen, c'est une grande base. Tu trouveras une poignée de personnes avec qui tu t'entendras très bien. Tu partiras en manip. Tu vivras des choses très, très fortes. Tu vas partager des conditions climatiques extrêmes. Vous ferez des manips ensemble. Vous allez vivre des moments avec des poussins, avec des animaux. Ce sera génial. Et puis avec les autres personnes, ce sera un peu plus compliqué. Ils iront pas forcément vers toi. Mais c'est toi aussi, si tu veux vivre une expérience humaine riche, tu peux aller vers eux, leur proposer des manips, et ça permet de briser la glace. Et ça, c'est une belle expérience, en fait.
Voilà, il faut savoir briser la glace, Emmanuel Lepage, dans cet environnement évidemment très particulier, parce que vivre plusieurs mois avec peu d'individus au bout du monde, évidemment, c'est très particulier en soi. Est-ce que vous l'avez ressenti, ce que les scientifiques vivent parfois comme tension? Est-ce que vous, en tant qu'observateur quand même un peu extérieur, vous l'avez vécu? Vous le dessinez assez rapidement d'ailleurs dans la bande dessinée. Vous ne vous attardez pas là-dessus, mais il y a quand même un moment de tension.
Oui, bah, il y a des tensions tout simplement parce que ce sont des gens qui ne se sont pas choisis et puis qui sont obligés de vivre au quotidien sans avoir la possibilité de partir, parce que c'est ça la grande difficulté. Et lorsque vous avez quand j'y étais, par exemple, il y avait eu un harcèlement sur une des bases, et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir comment collectivement ils vont réfléchir à ça, sachant que on ne peut pas écarter l'agresseur puisque il y a pas de bateau.
Donc, il est là.
Il vit avec sa victime au quotidien. Comment on fait? Comment on traite ce genre de choses au bout du monde? Et ce qui, moi, m'a passionné en rencontrant, en fait, ces gens-là, c'est la réflexion qu'ils mènent sur ces choses qui irriguent nos sociétés, ces rapports de domination, le patriarcat, le colonialisme, le genre, les rapports hommes-femmes. Évidemment que ça va aussi dans ces terres du bout du monde. Et c'est aussi leur quotidien. Donc, comment on fait pour le gérer? Et collectivement, ils inventent des solutions.
Et, par exemple? Comment on dénoue un tel cas, par exemple?
Alors ça, je ne sais pas comment eux, ils vont le proposer quotidiennement. Mais déjà, le fait tout simplement de parler. Comment on fait? Déjà, d'essayer de peut-être de raisonner la personne. Alors parfois, effectivement, on essaie le cas de l'agresseur en question a été résolu en écartant, en fait, l'agresseur. Malheureusement, ils ont aussi renvoyé la personne qui avait été agressée. Et ça avait provoqué aussi beaucoup de tensions.
Donc c'est aussi la réalité de cette vie dans ces îles.
Oui, mais bien sûr. Mais parce que
et cette réalité, elle ressort aussi dans vos dessins.
Mais c'est, en fait, quand j'étais parti là-bas la première fois en 2010, j'avais retrouvé une communauté. Et moi-même, j'ai vécu en communauté quand j'étais enfant, et donc j'avais le sentiment de retourner finalement dans quelque chose de l'enfance, et c'était une forme de nostalgie. Et quand je voyais ces jeunes gens et leur implication à essayer de penser des choses autrement, à leur engagement, leur militantisme parfois, qui finalement m'émerveillait aussi, et là j'avais l'impression d'une promesse. Le premier voyage était d'une nostalgie, le second était une promesse.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Les Kerguelen sont un atout précieux, une base arrière sur le continent antarctique et un jalon sur la route d'une des mers les plus fréquentées du globe. 7000 km² d'une terre sauvage peuplée de manchots, d'éléphants de mer et de quelques moutons venus des Pyrénées au début du siècle pour améliorer l'ordinaire des pêcheurs de baleines.
Une archive de l'INA de 1975, Emmanuel Lepage, vous qui publiez votre nouvelle BD chez Futuropolis, Danser avec le vent, qui se passe justement aux îles Kerguelen. Est-ce qu'on y trouve toujours des moutons pour améliorer le quotidien ou pas?
Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de moutons.
C'est fini.
Par contre, on trouve d'autres espèces. Hein. Vous avez les rennes qui sont toujours extrêmement présents dans les terres australes. Les moutons ont été sur des îles, donc on les a cantonnés dans un espace clos et ils ne nageaient pas. On a essayé de faire la même chose avec les rennes. Malheureusement, on a oublié que les rennes, ça savait nager.
C'est vrai.
Et donc, ils ont envahi la grande terre de Kerguelen et se sont reproduits. Aujourd'hui, il y en a des milliers.
Considérés donc comme des espèces invasives sur place?
Oui, parce que le piétinement en fait des rennes assèche les sols, particulièrement dans les zones humides, ouais. Et donc ça modifie l'écosystème et la végétation.
Ouais. Ouais. Il y a des chercheurs sur place qui sont spécifiquement dédiés au travail sur les espèces invasives, justement, ou pas?
Oui, alors ce sont ce qu'on appelle les mammintros, les mammifères introduits. Donc ce sont des chasseurs. Qui sont chargés de, comme ils disent, prélever, mais c'est-à-dire tout simplement tuer, ouais, les animaux. Alors c'est les rennes, évidemment. On a tué les mouflons, les moutons, tout simplement parce que l'homme, en mettant son pied dans les Kerguelen, a profondément modifié tout l'écosystème. Mmh. Et depuis que les terres australes sont devenues une réserve naturelle, on essaie de limiter l'impact de ces espèces invasive. Là, c'est évidemment la faune, mais c'est également le cas de la flore. À Kerguelen, vous avez les deux tiers en fait des plantes sont exogènes.
Parce que rapporté à l'occasion des différents voyages
Oui, c'est-à-dire que les plantes exogènes, c'est souvent ce que vous ramenez sous vos chaussures.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on fait très attention à ça. On a des sas en fait, de biosécurité où on nettoie nos chaussures, on aspire les plis des vêtements. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a les rennes, les mouflons, les moutons, je veux dire, c'est assez gros, donc on peut les tuer. Mmh. Ce qui pose plus de problèmes, c'est les rats, les souris et les chats. Il y a une chose assez absurde. Il y avait énormément de souris et de rats qui avaient été amenés par les bateaux au fil du temps, particulièrement au 19e siècle, avec les baleiniers, les fauquiers. Et dans les années 50, on s'est dit, mais on va mettre des chats. Comme ça, les chats vont courir après les souris.
Ça va être formidable.
Oui, c'était Tom et Jerry.
Bien
quoi.
Sûr.
Mais à Kerguelen, les oiseaux, ils nichent au sol. Donc il est beaucoup plus simple pour un chat d'aller manger les poussins ou les œufs que d'aller courir après les souris. Et donc il y a énormément de chats sauvages à Kerguelen. Évidemment, ils n'ont pas demandé à être là. Ils ne se vivent pas évidemment comme des espèces nuisibles. Mais on est obligé de, si on veut préserver tout simplement la faune locale et particulièrement des animaux qui sont endogènes. Hein. Je pense à l'albatros hurleur, par exemple.
Ouais.
Si on ne limite pas les chats autour de ces colonies, ces oiseaux disparaîtront.
Ouais. Donc ils vivent avec vous ou ils vous fuient pour le coup les humains sur place, ces chats?
Les chats, ils sont quand même... je crois qu'eux se méfient,
ouais,
des humains. Faut vraiment avoir l'œil du chasseur pour les voir. Bon, on en voit de temps en temps, il y en a quelques-uns, ouais, sur la base. Mais évidemment, c'est des choses qui sont sensibles. Ça ne se fait pas de gaieté de cœur.
Ouais.
Mais c'est nécessaire, tout simplement, pour préserver la biodiversité.
Emmanuel Lepage, vous avez vécu de longues heures de marche pour atteindre les cabanes qui sont des lieux particuliers. D'ailleurs, on voit que la visite de ces cabanes, il y a des cuisines évidemment pour manger, qui sont très protégées aussi à cause des souris. C'est des lieux très particuliers dans déjà l'univers très particulier des Kerguelen, ces cabanes.
La vie en cabane, c'est ça que j'imaginais faire et que je voulais expérimenter. Lors du premier voyage, je n'étais resté qu'à la base de Port-au-Français. Mm-hmm. Ce sont les Kerguelen, donc c'est immense, hein, c'est grand comme la Corse. Il y a toute une partie qui est inaccessible. Donc les cabanes ne sont pas partout. Elles sont essentiellement en fait sur des lieux d'études. Vous avez des cabanes pour les manchots, des cabanes pour les éléphants de mer, pour les otaries, les oiseaux. Et ce sont des terres sans chemin. et avec un terrain qui est parfois assez cabossé, assez chaotique. Et donc ce sont des heures et des heures de marche pour aller aux cabanes. Ce sont non seulement des têtes bien faites, mais ce sont aussi des corps bien faits. Enfin, ce sont des sportifs, hein, les scientifiques là-bas. Et la vie en cabane, c'est une expérience très très étrange, une aventure très étrange, parce que vous pouvez aller là-bas avec des scientifiques évidemment, mais vous allez aussi inviter les autres corps de métier à vous accompagner. Donc vous allez passer du temps avec des militaires, des ouvriers polyvalents, des charpentiers, des cuisiniers, et au plus près du monde sauvage.
Emmanuel Lepage, ces cabanes méritent évidemment la distance et la randonnée, mais quand on y arrive, en général, on tombe sur des endroits extraordinaires. Hein.
C'est ils sont à proximité justement de ces colonies, et tout simplement pour des questions d'études. Vous avez par exemple une magnifique cabane qui est la cabane des Staccades, c'est la cabane des éléphants de mer, qui est une petite cabane octogonale et qui est au milieu d'une colonie d'éléphants de mer. Vous avez des sortes d'alcôves où se lovent en fait ces éléphants de mer. On a l'impression que ce sort de golem en fait, qu'on a l'impression qu'on les fabriquait là, quoi, en fait. C'est un lieu absolument incroyable. Puis vous avez la mer qui est à 100 mètres. Donc vous réveillez au cri des éléphants de mer, des manchots. C'est un monde suspendu où on peut passer des semaines. C'est vraiment là vous êtes au bout du monde.
Comment vous repartez d'un tel voyage et comment vous rentrez ensuite en France métropolitaine après avoir vécu tout ça? Parce que les scientifiques parlent beaucoup de ce décalage, hein, entre l'intensité de ce qui est vécu et la difficulté à le raconter une fois rentré.
Oui, c'est... Pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience d'isolement, de vie de groupe comme ça pendant longtemps au bout du monde, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Donc, je dirais même les hivernants ont beaucoup de difficultés à l'expliquer, parce que finalement, on n'a pas les mêmes repères. On va parler peut-être de comment on mange, comment on se lave, vous voyez ce genre de choses, mais la vérité de ce qui se passe là-bas est ailleurs. Et quand on rentre, la plupart sont perdus. Il y a assez peu d'accompagnement psychologique, malheureusement. Et on met du temps à comprendre ce qui s'est passé. Un mot qui revenait très souvent dans la bouche de ces jeunes hivernants, c'était l'impression de se sentir plus vrai là-bas. Ils découvraient des choses d'eux-mêmes qu'ils n'appréhendaient pas. Ils se découvraient aux autres de façon parfois très, très simple et évidente. Il y avait des amitiés qui mettent peut-être 20 ans à se faire ici en métropole, qui étaient beaucoup plus rapides. Il y a une rapidité de la relation, une intensité. Et puis le fait de vivre, donc je vous dis, c'est très physique, hein, les Kerguelen. Donc je pense de faire un effort ensemble est déjà une chose. Et puis aussi de la découverte de ce monde sauvage, de ce vivant sauvage, et puis l'intensité des expériences et scientifiques qu'ils font.
Et vous, Emmanuel Lepage, est-ce que vous vous êtes senti plus vrai là-bas au Kerguelen qu'en France ou pas, métropolitaine?
Pour moi, ce voyage a été merveilleux. Vous savez, ce livre, je l'ai vendu en une phrase à mes éditeurs. J'ai jamais vendu un livre aussi vite. Je leur ai dit, je vais faire un livre sur la joie. Et ils m'ont dit, on signe.
Ça fait du bien par les temps qui courent, effectivement. Oui,
en fait, je crois que je voulais faire ça à travers ce livre. C'est-à-dire que j'avais envie de montrer qu'il existait des belles personnes, des gens qui pensent. Quand j'étais là-bas, j'avais l'impression de rencontrer des adultes.
Donc vous êtes revenu dans le monde des enfants
Pas tout à fait, parce que nous avons créé des liens entre nous qui sont extrêmement forts, et ce sont des gens que je fréquente très très régulièrement. Et puis, vous me posiez la question de savoir comment j'étais rentré. En fait, je pense que je suis pas tout à fait rentré encore, puisque après ce voyage, j'ai fait la bande dessinée.
Alors c'est ce que j'allais vous dire, parce que au moins c'est l'avantage du dessinateur, c'est qu'à le prolongement ensuite, des croquis, il faut passer vraiment à l'album. Hein, et là, c'est une façon de rester aussi un peu sur place pour vous?
Oui, et puis de continuer les liens, puisque au fur et à mesure de la création du livre, je continue à échanger avec ces jeunes ou moins jeunes gens, on établit un autre dialogue qui se fait souvent par mail, hein, et on est le lien perdure, et c'est parfois même difficile auprès de mes proches ou d'autres amis de comprendre le lien qu'on a pu établir ensemble, et je crois que la grâce à la bande dessinée, je pense qu'ils comprennent un petit peu.
Absolument, c'est une façon en tout cas de vivre une petite part de ce que vous avez vécu et ressenti sur place. Ça s'appelle Danse avec le vent, donc c'est cet album paru chez Futuropolis et que l'on peut mettre donc un petit bout de Kerguelen au pied du sapin, pourquoi pas, puisque nous sommes le 22 décembre. Merci beaucoup Emmanuel Lepage.
Merci Mathieu Vidard.
D'être venu nous en parler aujourd'hui.